Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 6, chapitre 7. Marche de la Réforme, les Augustins à Eisleben et Miltitz, députation à Luther, Miltitz et l'électeur, conférence à Lichtenberg, lettre de Luther au pape, livre donné au pape, union de Christ et du fidèle, liberté et servitude. Après un tel écrit, toute espérance de réconciliation entre le pape et Luther devait s'évanouir. L'incompatibilité de la foi du réformateur avec la doctrine de l'Église devait frapper les moins clairvoyants, mais précisément alors de nouvelles négociations venaient de commencer. 5 semaines avant la publication de La captivité de Babylone, à la fin d'août 1520, le chapitre général des Augustins s'était assemblé à Eisleben. Le vénérable Staupitz s'y résigna le vicariat général de l'ordre et Wenceslas Link, qui avait accompagné Luther à Augsbourg, en fut revêtu. L'infatigable Miltitz arriva tout à coup au milieu du chapitre. Il brûlait du désir de réconcilier le pape et Luther. Son amour-propre, son avarice et surtout sa jalousie et sa haine y étaient intéressés. Eck et ses fanfaronnades le gênaient. Il savait que le docteur d'Ingolstadt l'avait décrié à Rome et il eut tout sacrifié pour faire échouer par une paix promptement conclue les trames de cet importun rival. L'intérêt religieux était nul pour lui. Un jour, à ce qu'il raconte, il était à table chez l'évêque de Leysen. Les convives avaient déjà fait de nombreuses libations lorsqu'on leur apporta un nouvel écrit de Luther. On l'ouvre, on le lit. L'évêque s'emporte, l'official jure, mais Miltitz rit de tout son cœur. Miltitz traitait la réformation en homme du monde, Eck en théologien. Réveillé par l'arrivée du docteur Eck, Miltitz s'adressa au chapitre des Augustins un discours prononcé avec un accent italien très marqué, pensant à imposer ainsi à ses bons compatriotes. « Tout l'ordre des Augustins est compromis dans cette affaire, » dit-il. « Indiquez-moi un moyen de réprimer Luther. »« Nous n'avons rien à faire avec le docteur, » répondirent les pères, « et nous ne saurions quel conseil vous donner. » Il s'appuyait sans doute sur ce que Staupitz avait délié Luther à Augsbourg de ses obligations à l'égard de l'ordre. Miltitz insista. Qu'une députation de ce vénérable chapitre se rende vers Luther et le sollicite d'écrire au pape, en l'assurant qu'il n'a jamais rien tramé contre sa personne. Cela suffira pour terminer l'affaire. Le chapitre se rendit à la requête du nonce et chargea sans doute sur sa demande l'ancien vicaire général et son successeur, Staupitz et Link, de parler à Luther. Cette députation partit aussitôt pour Wittenberg avec une lettre de Miltitz pour le docteur, remplie des expressions les plus respectueuses. « Il n'y avait pas de temps à perdre, disait-il, la foudre, déjà suspendue sur la tête du réformateur, allait bientôt éclater et alors tout serait fini. » Ni Luther, ni les députés qui partageaient ses sentiments n'espéraient rien d'une lettre au pape, mais c'était même là une raison pour ne pas se refuser à l'écrire. Une telle lettre ne pouvait être qu'une simple affaire de forme, qui ferait encore mieux ressortir le droit de Luther. Cet Italien de la Saxe, Miltitz, pensait Luther, a sans doute en vue dans cette demande son intérêt particulier. Eh bien, soit, j'écrirai conformément à la vérité que je n'ai jamais rien eu contre la personne du pape. Il faudra me tenir sur mes gardes pour ne pas attaquer trop fortement le siège même de Rome. Cependant, je le saupoudrerai de sel. Mais bientôt après, le docteur apprit l'arrivée de la bulle en Allemagne. Le 3 octobre, il déclara à Spalatin qu'il n'écrirait point au pape et le 6 du même mois, il publia son livre sur la captivité de Babylone. Miltitz ne se découragea point. Le désir d'humilier Eck lui faisait croire l'impossible. Le 2 octobre, il avait écrit plein d'espérance à l'électeur « Tout ira bien, mais pour l'amour de Dieu, ne tardez pas davantage à me faire payer la pension que vous et votre frère me faites depuis quelques années. Il me faut de l'argent pour me faire de nouveaux amis à Rome. Écrivez au pape, faites hommage aux jeunes cardinaux, parents de sa sainteté, de pièces d'or et d'argent au coin de votre altesse électorale, et joignez-en aussi pour moi, car on m'a volé celle que vous m'aviez donnée. » même après que Luther eut eu connaissance de la bulle, l'intrigant Miltitz ne se découragea pas encore. Il demanda d'avoir à Lichtenberg une conférence avec Luther. L'électeur ordonna à celui-ci de s'y rendre, mais ses amis et surtout l'affectueux Mélenchon s'y opposèrent. « Quoi, pensait-il, dans le moment où paraît la bulle qui ordonne qu'on s'empare de Luther, pour le conduire à Rome, accepter en un endroit éloigné une conférence avec le nonce du pape ? N'est-il pas évident que le docteur Eck, ne pouvant s'approcher du réformateur parce qu'il a trop ouvertement affiché toute sa haine, le rusé chambellan s'est chargé de prendre Luther dans ses filets ?» Ces craintes ne pouvaient arrêter le docteur de Wittenberg. Le prince a commandé, il obéira. « Je pars pour Lichtenberg, » crie-t-il le 11 octobre au chapelain. « Priez pour moi. » Ses amis ne voulurent pas l'abandonner. Le même jour, vers le soir, Luther entra dans Lichtenberg, à cheval, entouré de 30 cavaliers, parmi lesquels se trouvait Mélenchon. Le nonce du pape y arriva à peu près en même temps, avec une suite de 4 personnes. Cette modeste escorte n'était-elle pas une ruse pour inspirer de la confiance à Luther et à ses amis ? Miltitz fit à Luther les plus pressantes sollicitations, l'assurant que la faute serait rejetée sur Eck et sur ses folles jactances, et que tout se terminerait à la satisfaction des deux parties. « Eh bien, répondit Luther, je m'offre à garder dorénavant le silence, pourvu que mes adversaires le gardent d'eux-mêmes. Je veux faire pour la paix tout ce qu'il m'est possible de faire. » Miltitz fut rempli de joie. Il accompagna Luther jusqu'à Wittenberg. Le réformateur et le nonce papal entrèrent l'un à côté de l'autre dans cette ville de laquelle le docteur Eck s'approchait déjà, présentant d'une main menaçante la bulle formidable qui devait renverser la réformation. « Nous amènerons la chose de bonne fin, » écrivit aussitôt Miltitz à l'électeur. « Remerciez le pape de sa rose et envoyez en même temps 40 ou 50 florins au cardinal Quatuor Sanctorum. » Luther devait remplir sa promesse et écrire au pape. Avant de dire à Rome un adieu éternel, il voulait lui faire entendre, encore une fois, d'importantes et de salutaires vérités. On ne verra peut-être dans sa lettre qu'un écrit caustique, une amère et insultante satire, mais ce n'est pas connaître les sentiments qui l'animaient. Il attribuait sincèrement à Rome tous les maux de la chrétienté. Dès lors, toutes ses paroles sont non des insultes, mais de solennels avertissements. Plus il aime Léon, plus il aime l'Église de Christ, plus il veut dévoiler la grandeur de sa plaie. L'énergie de ses expressions est la mesure de l'énergie de son affection. Le moment est venu de frapper de grands coups. On croit voir un prophète faisant pour la dernière fois le tour de la cité, lui reprochant toutes ses abominations, lui révélant les jugements de l'Éternel et lui criant « Encore quelques jours !» Voici la lettre. « Ô très saint Père en Dieu, Léon X, pape à Rome, sois tout salut en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen. Du milieu de cette violente guerre que depuis 3 ans je livre à des hommes déréglés, je ne puis m'empêcher quelquefois de regarder à vous, ô Léon, très saint Père en Dieu. Et bien que la folie de vos impies flatteurs m'ait contraint à en appeler de votre jugement à un concile futur, mon cœur ne s'est pas détourné de votre sainteté et je n'ai cessé de demander à Dieu par de constantes prières et de profonds soupirs votre prospérité et celle de votre pontificat. J'ai attaqué, il est vrai, quelques doctrines antichrétiennes et j'ai fait une profonde blessure à mes adversaires à cause de leur impiété. Je ne m'en repens pas, car j'ai ici l'exemple de Christ. À quoi sert le sel s'il ne mord pas ? À quoi le tranchant de l'épée s'il ne coupe pas ? Maudit soit l'homme qui fait nonchalamment l'œuvre du Seigneur. Ô très excellent Léon, loin d'avoir jamais conçu une mauvaise pensée à votre égard, je vous souhaite pour l'éternité les biens les plus précieux. Je n'ai fait qu'une chose, j'ai maintenu la parole de la vérité. Je suis prêt à céder à tous, en tout, mais quant à cette parole, je ne veux, je ne puis l'abandonner. Celui qui pense autrement que moi pense mal. Il est vrai que j'ai attaqué la cour de Rome, mais ni vous-même, ni aucun homme sur la terre, ne pouvez nier que la corruption n'y soit plus grande qu'à Sodome et à Gomorre, et que l'impiété qui y règne ne soit sans espoir de guérison. Oui, j'ai été rempli d'horreur en voyant que sous votre nom on trompait le pauvre peuple de Christ. Je m'y suis opposé et je m'y opposerai encore. Non que je m'imagine pouvoir, malgré l'opposition des flatteurs, venir à bout de quelque chose dans cette Babylone qui est la confusion même, mais je me dois à mes frères, afin que quelques-uns échappent, s'il est possible, à ces terribles fléaux. Vous le savez, Rome, depuis beaucoup d'années, a inondé le monde de tout ce qui pouvait perdre l'âme et le corps. L'église de Rome, autrefois la première en sainteté, est devenue une caverne de voleurs, un théâtre de prostitution, un royaume de la mort et de l'enfer, en sorte que l'Antéchrist lui-même, s'il paraissait, ne pourrait en augmenter la malice. Tout cela est plus évident que la lumière même du soleil. Et cependant, vous, ô Léon, vous êtes comme un agneau au milieu des loups et comme Daniel dans la fosse aux lions. Seul, que pouvez-vous opposer à ces monstres? Peut-être est-il 3 ou 4 cardinaux qui joignent à la science la vertu, mais qu'est-ce que cela contre un si grand nombre? Vous périrez par le poison avant même que de pouvoir essayer quelques remèdes. C'en est fait de la cour de Rome. La colère de Dieu l'a atteinte et elle la consumera. Elle hait les avis, elle craint la réforme, elle ne veut point modérer la fureur de son impiété et mérite qu'on dise d'elle comme de sa mère « Nous avons traité Babylone et elle n'est point guérie, abandonnons-la. » Jérémie, chapitre 51, verset 9. C'était à vous et à vos cardinaux d'appliquer le remède, mais la malade se rit du médecin et le cheval ne veut point sentir les rênes. Plein d'affection pour vous, très excellent Léon, j'ai toujours regretté que, formé pour un siècle meilleur, vous ayez été élevé au pontificat en ce temps-ci. Rome n'est pas digne de vous et de ceux qui vous ressemblent. Elle ne mérite d'avoir pour chef que Satan lui-même. Aussi est-il vrai qu'il règne plus que vous dans cette Babylone. Plût à Dieu que, déposant cette gloire qu'exalte si fort vos ennemis, vous puissiez l'échanger contre un modeste pastoral ou vivre de votre héritage paternel, car il n'y a que des iscariots qui soient dignes d'une telle gloire. Oh, mon cher Léon, à quoi servez-vous dans cette cour romaine, si ce n'est à ce que les hommes les plus exécrables usent de votre nom et de votre pouvoir pour ruiner les fortunes, perdre les âmes, multiplier les crimes, opprimer la foi, la vérité et toute l'Église de Dieu. Ô Léon, Léon, vous êtes le plus malheureux des hommes et vous siégez sur le plus dangereux des trônes. Je vous dis la vérité parce que je vous veux du bien. N'est-il pas vrai que sous la vaste étendue du ciel, il n'y a rien de plus corrompu, de plus haïssable que la cour romaine? Elle dépasse infiniment les Turcs en vice et en corruption. Autrefois, la porte du ciel, elle est devenue la bouche de l'enfer, bouche large et que la colère de Dieu tient ouverte, en sorte que, voyant tant de malheureux qui s'y précipitent, il me faut crier comme en une tempête, afin que quelques-uns du moins soient sauvés de l'affreux abîme. Voilà, ô Léon, mon père, pourquoi je me suis déchaîné contre ce siège qui donne la mort. Loin de m'élever contre votre personne, j'ai cru travailler pour votre salut, en attaquant vaillamment cette prison, ou plutôt cet enfer dans lequel vous êtes renfermé. Faire à la cour de Rome toutes sortes de mal, c'est s'acquitter de votre propre devoir. La couvrir de honte, c'est honorer Christ. En un mot, c'est être chrétien que de ne pas être romain. Cependant, voyant que je perdais à secourir le siège de Rome et mes soins et mes peines, je lui ai remis la lettre de divorce. Je lui ai dit « Adieu, Rome, que ce qui est injuste soit injuste encore, que ce qui est souillé se souille encore davantage. » Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Et je me suis livré aux tranquilles et solitaires études de la Sainte Écriture. Alors Satan a ouvert les yeux et réveillé son serviteur Jean Eck, grand ennemi de Jésus-Christ, afin qu'il me fît redescendre dans l'arène. Il voulait établir non la primauté de Pierre, mais la sienne, et pour cela mener en triomphe Luther vaincu. C'est à lui qu'est la faute de tout l'opprobre dont le siège de Rome est couvert. Luther raconte ses rapports avec De Vio, Miltitz et Eck, puis il poursuit. « Maintenant donc, je viens à vous, ô très saint Père, et prosterné à vos pieds, je vous prie de mettre un frein, si cela est possible, aux ennemis de la paix. Mais je ne puis rétracter ma doctrine, je ne puis permettre que l'on impose à la Sainte Écriture des règles d'interprétation. Il faut qu'on laisse libre la parole de Dieu, qui est la source même d'où jaillit toute liberté. Ô Léon, mon père, n'écoutez pas ces flatteuses sirènes qui vous disent que vous êtes non un simple homme, mais un demi-dieu, et que vous pouvez ordonner tout ce qu'il vous plaît. Vous êtes le serviteur des serviteurs, et la place où vous êtes assis est la plus dangereuse et la plus misérable de toutes. Croyez non ceux qui vous élèvent, mais ceux qui vous humilient. Je suis peut-être trop hardi en enseignant une si haute majesté qui doit instruire tous les hommes, mais je vois les dangers qui vous entourent à Rome. Je vous y vois pousser, ça et là, comme sur les vagues de la haute mer en tourmente. La charité me presse et je dois pousser un cri d'avertissement et de salut. Pour ne pas paraître les mains vides devant votre sainteté, je vous présente un petit livre qui a paru sous votre nom et qui vous fera connaître de quel sujet je pourrais m'occuper si vos flatteurs me le permettent. C'est peu de choses si l'on regarde au volume, mais c'est beaucoup si l'on regarde au contenu, car le sommaire de la vie chrétienne s'y trouve renfermé. Je suis pauvre et je n'ai rien d'autre à vous offrir. D'ailleurs, avez-vous besoin d'autre chose que de dons spirituels ? Je me recommande à votre sainteté que le Seigneur Jésus garde éternellement. Amen. Le petit livre dont Luther faisait hommage au pape était son discours sur la liberté du chrétien. Le réformateur y démontre, sans polémique, comment, sans porter atteinte à la liberté que la foi lui a donnée, le chrétien peut se soumettre à toute ordonnance extérieure dans un esprit de liberté et de charité. Deux vérités servent de base à tout le reste. Le chrétien est libre et maître de toutes choses. Le chrétien est serviteur et soumis en tout et à tous. Il est libre et maître par la foi, il est soumis et serviteur par la charité. Il expose d'abord la puissance de la foi pour rendre le chrétien libre. « La foi unit l'âme avec Christ comme une épouse avec un époux », dit Luther au pape. « Tout ce que Christ a devient la propriété de l'âme fidèle. Tout ce que l'âme a devient la propriété de Christ. Christ possède tous les biens et le salut éternel. » Ils sont dès lors la propriété de l'âme. L'âme possède tous les vices et tous les péchés. Ils deviennent dès lors la propriété de Christ. C'est alors que commence un bienheureux échange. Christ qui est Dieu et homme, Christ qui n'a jamais péché, dont la sainteté est invincible, Christ le Tout-Puissant et l'Éternel, s'appropriant par son anneau nuptial, c'est-à-dire par la foi, tous les péchés de l'âme fidèle, ses péchés sont engloutis en lui et abolis en lui, car il n'est aucun péché qui puisse subsister devant son infinie justice. Ainsi, par le moyen de la foi, l'âme est délivrée de tout péché et revêtue de la justice éternelle de son époux Jésus-Christ. Ô heureuse union ! Le riche, le noble, le saint époux Jésus-Christ prend en mariage cette épouse pauvre, coupable, méprisée, la délivre de tout mal et la part des biens les plus exquis. Christ, roi et sacrificateur, partage cet honneur et cette gloire avec tous les chrétiens. Le chrétien est roi et par conséquent il possède toutes choses. Il est sacrificateur et par conséquent il possède Dieu et c'est la foi et non les œuvres qui lui apportent un tel honneur. Le chrétien est libre de toutes choses, au-dessus de toutes choses, la foi lui donnant tout abondamment. Dans la seconde partie de son discours, Luther présente l'autre côté de la vérité. Bien que le chrétien soit ainsi devenu libre, il devient volontairement serviteur pour en agir avec ses frères, comme Dieu en a agi avec lui-même par Jésus-Christ. « Je veux, dit-il, servir librement, joyeusement, gratuitement, un Père qui a ainsi répandu sur moi toute l'abondance de ses biens. Je veux tout devenir pour mon prochain, comme Christ est tout devenu pour moi. » De la foi, continue Luther, découle l'amour de Dieu. De l'amour découle une vie pleine de liberté, de charité et de joie. Oh, que la vie chrétienne est une vie noble et élevée, mais, hélas, personne ne la connaît et personne ne la prêche. Par la foi, le chrétien s'élève jusqu'à Dieu. Par l'amour, il descend jusqu'à l'homme, et cependant, il demeure toujours en Dieu. Voilà la véritable liberté, liberté qui surpasse toute autre liberté autant que les cieux sont élevés par-dessus la terre. Tel est l'écrit dont Luther accompagna sa lettre à Léon X. Livre 6, chapitre 8. La bulle en Allemagne, comment Eck est accueilli, la bulle à Wittenberg, intervention de Zwingli. Tandis que le réformateur s'adressait ainsi pour la dernière fois au pontife romain, la bulle qu'il anathématisait était déjà dans les mains des chefs de l'Église germanique et aux portes de la demeure de Luther. Il paraît que l'on ne doutait nullement à Rome du succès de la mesure que l'on venait d'y prendre contre la Réformation. Le pape avait chargé deux hauts fonctionnaires de sa cour, Caraccioli et Aleandre, de l'apporter à l'archevêque de Mayence en l'invitant à pourvoir à son exécution. Mais Eck lui-même paraissait comme le héros et exécuteur de la grande œuvre pontificale en Saxe. Le choix avait été quelque temps douteux. Eck, écrivait alors un habitant de Rome, était propre à cette mission par son audace, sa dissimulation, ses mensonges, ses flatteries et autres vices fort prisés à Rome. Mais son penchant au vin, défaut pour lequel les Italiens ont beaucoup d'aversion, s'opposait à son élection. La puissance de son patron, le roi des écus, Fugère, eut le dessus. On métamorphosa même en vertu le vice du docteur. « C'est justement l'homme dont nous avons besoin, » disaient plusieurs Romains. « Pour ces ivrognes d'Allemands, il nous faut un légat ivre. » On ajoutait tout bas qu'aucun homme de bien et même de bon sens ne se chargerait d'une telle mission et que si, par hasard, il s'en trouvait un, la grandeur du péril lui ferait bientôt abandonner l'affaire. L'idée de donner Aleandre pour collègue au docteur Eck parut excellente. « Couple admirable, disait-on, orateur parfaitement semblable en effronterie, en impudence et en débauche. » Le docteur d'Ingolstadt avait compris mieux qu'un autre la puissance des coups de Luther. Il avait vu le danger et avait avancé la main pour soutenir l'édifice ébranlé de Rome. Il était, à ce qu'il pensait, l'Atlas destiné à porter sur ses robustes épaules l'antique monde romain près de s'écrouler. Fier des succès de son voyage à Rome, fier de la charge qu'il avait reçue du souverain pontife, fier de paraître en Allemagne avec le nouveau titre de proto-notaire et nonce pontifical, fier de cette bulle qu'il tenait en sa main et dans laquelle se trouvait la condamnation de son indomptable rival, sa mission actuelle était pour lui un triomphe plus magnifique que toutes les victoires qu'il avait remportées en Hongrie, en Bavière, en Lombardie, en Saxe et dont il avait auparavant tiré tant de gloire. Mais cet orgueil devait être promptement abaissé. Le pape, en confiant à Eck la publication de la bulle, avait commis une faute qui devait en détruire les faits. Une si grande distinction accordée à un homme qui n'occupait pas un rang élevé dans l'Église choquait les esprits susceptibles. Les évêques, accoutumés à recevoir directement les bulles du pape, trouvaient mauvais que celle-ci fût publiée dans leur diocèse par ce nonce improvisé. La nation qui avait sifflé le prétendu vainqueur de Leipzig au moment où il s'était enfui en Italie le voyait avec étonnement et indignation repasser les Alpes, muni des insignes de nonce pontificale et du pouvoir d'écraser ses hommes d'élite. Luther regardait ce jugement apporté par son implacable adversaire comme un acte de vengeance personnelle. Cette condamnation était pour lui, dit Pallavicini, comme le poignard perfide d'un ennemi mortel et non comme la hache légitime d'un licteur romain. On ne considérait plus cet écrit comme la bulle du souverain pontife, mais comme la bulle du docteur Eck. Ainsi, le coup était émoussé et affaibli à l'avance par celui-là même qui l'avait provoqué. Le chancelier d'Ingolstadt s'était hâté de se rendre en Saxe. C'est là qu'il avait livré le combat, c'est là qu'il voulait faire éclater sa victoire. Il parvint à afficher la bulle à Meissen, à Merseburg et à Brandebourg vers la fin de septembre. Mais dans la première de ces villes, on la placarda dans un lieu où personne ne pouvait la lire, et les évêques de ces trois sièges ne se pressèrent point de la publier. Son grand protecteur même, le duc Georges, défendit au conseil de Leipzig de la rendre publique avant d'en avoir reçu l'ordre de l'évêque de Merseburg, et cet ordre ne vint que l'année suivante. « Ces difficultés ne sont que pour la forme », pensait d'abord Jean Eck, car tout semblait d'ailleurs lui sourire. Le duc Georges lui envoya une coupe dorée et quelques ducats. Miltitz même accourut à Leipzig à la nouvelle de l'arrivée de son rival, l'invita à dîner. Les deux légats étaient amis de la table, et Miltitz croyait ne pouvoir mieux sonder le docteur Eck que le verre à la main. Quand il eut bien bu, il commença, dit le camérier du pape, à se vanter de plus belle. Il étala sa bulle et raconta comment il prétendait mettre à la raison ce drôle de Martin. Mais bientôt le docteur d'Ingolstadt eut occasion de remarquer que le vent tournait. Un grand changement s'était opéré à Leipzig depuis une année. Le jour de la Saint-Michel, quelques étudiants affichèrent en 10 places différentes des placards où ils attaquaient vivement le nouveau nonce. Épouvanté, il se sauva dans le cloître de Saint-Paul où s'était déjà réfugié Tetzel. Il refusa toute visite et obtint du recteur qu'on mit à la raison ses jeunes adversaires. Mais le pauvre Eck y gagna peu. Les étudiants firent sur lui une chanson et la chantèrent dans les rues. Eck l'entendait de sa prison. Alors, tout son courage se perd. Le redoutable champion tremble de tous ses membres. Chaque jour, il reçoit des lettres menaçantes. 150 étudiants arrivent de Wittenberg parlant hardiment contre l'envoyé papal. Pour le coup, le pauvre nonce apostolique n'y tient plus. « Je ne veux pas qu'on le tue, » dit Luther, « mais je désire que ses desseins échouent. » Eck quitte de nuit sa retraite, se sauve clandestinement de Leipzig et va se cacher à Cobourg. Miltitz, qui le rapporte, en triomphait plus que le réformateur. Ce triomphe ne fut pas de longue durée. Tous les projets de conciliation du camérier échouèrent et il finit tristement sa vie. Miltitz tomba ivre dans le Rhin à Mayence et y mourut. Peu à peu, Eck reprit courage. Il se rendit à Erfurt, dont les théologiens avaient donné au docteur de Wittenberg plus d'une marque de leur jalousie. Il insista pour que sa bulle fût publiée dans cette ville, mais les étudiants saisirent les exemplaires, les déchirèrent et les jetèrent à la rivière en disant « Puisque c'est une bulle, qu'elle nage !»« Maintenant, » dit Luther en l'apprenant, « le papier du pape est une vraie bulle. » Eck n'osait pas paraître à Wittenberg. Il envoyait la bulle au recteur en menaçant, si l'on ne s'y conformait pas, de détruire l'université. Il écrivit en même temps au duc Jean, frère et co-régent de Frédéric, « Ne prenez pas en mauvaise part ce que je fais, lui dit-il, car c'est pour la foi que j'agis, et cela me coûte bien des soucis, bien du travail et bien de l'argent. » L'évêque de Brandebourg ne pouvait, quand même il en eut l'intention, agir dans Wittenberg en sa qualité d'ordinaire, car l'université était protégée par ses privilèges. On voulut que Luther et Karlstadt, condamnés par la bulle, prissent part aux séances dans lesquelles on délibéra sur son contenu. Le recteur déclara que, ne recevant pas avec la bulle une lettre du pape, il se refusait à la publier. L'université jouissait déjà dans ses contrées d'une plus grande autorité que le souverain pontife lui-même. Sa déclaration servit de modèle au gouvernement de l'électeur. Ainsi, l'esprit qui était dans Luther triomphait de la bulle de Rome. Tandis que cette affaire agitait en Allemagne si fortement les esprits, une voix grave se fit entendre dans une autre contrée de l'Europe. Un homme, prévoyant les déchirements immenses que la bulle du pape allait opérer dans l'Église, se présenta pour donner un avertissement sérieux et défendre le réformateur. Publia un écrit plein de sagesse et de dignité. Ce fut ce même prêtre suisse dont nous avons déjà parlé, Ulrich Zwingli, qui, sans aucune relation d'amitié avec Luther, publia un écrit plein de sagesse et de dignité, le premier de ses nombreux ouvrages. Une affection fraternelle semblait l'entraîner vers le docteur de Wittenberg. « La piété du pontife, disait-il, demande qu'il sacrifie avec joie ce qu'il peut avoir de plus cher à la gloire de Christ, son roi, et à la paix publique de l'Église. Rien ne nuit plus à sa dignité que quand il ne la défend que par des salaires ou des terreurs. On n'avait point encore lu les écrits de Luther, que déjà on le décriait auprès du peuple, comme un hérétique, un schismatique et l'antéchrist même. Personne ne l'avertissait, personne ne le réfutait. Il demandait une discussion et on se contentait de le condamner. La bulle qu'on publie contre lui déplaît à ceux-même qui honorent la grandeur du pape, car on y reconnaît partout les marques de la haine impuissante de quelques moines et non celle de la douceur d'un pontife qui doit être le vicaire d'un sauveur plein de charité. Tous reconnaissent que la vraie doctrine de l'évangile de Jésus-Christ a grandement dégénéré et qu'il faut une restauration publique et éclatante des lois et des mœurs. Voyez tous les hommes de science et de vertu. Plus ils sont sincères, plus ils sont attachés à la vérité évangélique. Moins aussi les livres de Luther les scandalisent. Il n'y a personne qui n'avoue que ces livres l'ont rendu meilleur, quand même il s'y trouverait peut-être des passages qu'on ne saurait approuver. Que l'on choisisse des hommes d'une doctrine pure, d'une probité reconnue, que trois princes au-dessus de tout soupçon, l'empereur Charles, le roi d'Angleterre et le roi de Hongrie, nomment eux-mêmes les arbitres, que ces hommes lisent les écrits de Luther, l'entendent lui-même et qu'on ratifie tout ce qu'ils décideront. Nic esato et tu Christu, paideia kai aletheia. Que l'enseignement et la vérité de Christ aient la victoire. cette proposition venue du pays des Suisses n'eut pas de suite. Il fallait que le grand divorce s'accomplît, il fallait que la chrétienté fût déchirée. C'était dans ses blessures mêmes qu'elle devait trouver le remède à ses maux.